La journée finit bien sur Radio Lac.
Avec Benjamin Smadja.
Avec Benjamin Smadja.
Le Téléthon est de retour vendredi et samedi 6, 7 décembre. Téléthon.ch pour donner chaque franc compte. On le dit chaque année, oui, mais à quoi servent nos dons? Bonjour docteur Perrine Castet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Lac. Vous êtes professeure assistante à l'Université de Genève. Vous êtes une spécialiste des maladies neuromusculaires. Parlons-en donc de ces maladies neuromusculaires. La première question qu'on vous pose à chaque fois, on en est où? Où en est la recherche?
Eh ben la recherche avance, ça avance par petits pas en fait. La recherche c'est un travail de très très longue haleine. Quand on est à l'intérieur dans les laboratoires, on a même parfois l'impression que ça stagne. Et puis des fois un jour on se réveille, on arrive au laboratoire et puis on appelle ça un résultat waouh, où on sait qu'on a fait une petite étape parmi tout le cheminement pour la compréhension de ces maladies ou le développement des thérapies. Donc c'est vrai que chaque année, le Téléthon revient. C'est la preuve que c'est pas fini, en fait. Il y a toujours des maladies à soigner, il y a toujours des patients qui sont en attente. Mais tout prend du temps et en fait, tout demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent quand on est dans un laboratoire de recherche.
Et c'est précisément la difficulté, vous l'expliquez très bien. Pour vous, c'est un résultat waouh. Pour nous, le grand public, c'est bon, ces maladies existent toujours. Donc, que fait la recherche alors qu'il y a énormément de choses à détricoter?
Effectivement, en fait, le gros souci des maladies rares, c'est qu'elles sont très, très, très nombreuses. En fait, il y a plus de 7000 maladies rares actuellement rapportées ou identifiées vraiment clairement. Certaines de ces maladies ont un nom, mais n'ont même pas la cause encore identifiée. C'est-à-dire que le patient ne peut même pas dire « je suis atteint parce que j'ai 7 molécules qui manquent dans mes muscles » ou dans mon corps, ce qui est en général un réel problème, d'ailleurs un réel sentiment d'isolement ou de détresse pour ces patients. Pour la grande majorité des maladies, dans les 20 dernières années, en fait, c'est sur ce terrain-là que la recherche a vraiment, vraiment beaucoup progressé, c'est-à-dire que quasiment pour toutes ces maladies, maintenant, on peut mettre le nom, le gène, c'est-à-dire la cause de la maladie, et on peut vraiment travailler sur les mécanismes et la thérapie qui suit.
D'où l'importance également d'aller régulièrement chez le médecin, de faire toutes sortes de dépistages qui soient possibles, en lien bien sûr avec son médecin, pour pouvoir identifier rapidement s'il y a un besoin.
Tout à fait, exactement. En fait, dans ce genre de maladie, et surtout maintenant avec l'apparition de ces essais cliniques, de ces thérapies qui arrivent, le diagnostic ou le moment où on place le diagnostic est essentiel. On parle beaucoup ces temps-ci des grandes avancées en thérapie sur l'amyotrophie spinale. Par exemple, on a notre ambassadeur de cette année, Romain, qui est atteint de cette maladie. Et c'est sur cette maladie qu'on a eu des progrès fantastique en termes de thérapie. Et typiquement, il faut, pour ces thérapies appliquées à l'amyotrophie spinale, que le diagnostic soit posé le plus tôt possible. Dès qu'il est posé, et le plus tôt possible, il faut qu'il soit posé, on peut engager les patients, les malades, les enfants dans ces essais cliniques. Et il faut en fait, dès qu'on a le nom de la maladie, dès qu'on a la cause de la maladie, on peut essayer d'aller contre elle. Si la maladie s'installe, si elle progresse, en fait, on est comme dans une guerre contre la maladie et on perd en fait du temps avec ce diagnostic qui est long à positionner. Donc le plus tôt on arrive à poser le nom de la maladie, à identifier la cause de la maladie, le plus efficace on va être pour lutter contre la progression de cette maladie.
J'ai deux questions. Qu'est-ce que l'amyotrophie spinale? Comment est-ce qu'on la détecte, on la remarque? Et quelles ont été les avancées?
Ah, c'est assez compliqué. Alors, je suis pas médecin. Globalement, pour que vos muscles fonctionnent, il faut qu'ils aient une bonne connexion avec tous les nerfs, pour que les nerfs contrôlent leur contraction, que les mouvements soient efficaces, etc. Dans l'amyotrophie spinale, c'est les nerfs qui vont pas bien, qui commencent à mourir. Et il y a beaucoup de sévérités différentes dans cette maladie. On appelle ça des types 1, type 2, type 3, donc c'est assez compliqué. Mais par contre, c'est vrai que, par exemple, quand on a une amyotrophie spinale infantile, qui globalement condamne les enfants, hein, il faut le dire, et que ça condamne les enfants avant l'âge de 2 ans. Ces enfants ne marcheront pas, ils vont avoir un décès très 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 précoce. Il faut poser le diagnostic tout de suite. Et c'est ces enfants en fait qu'on arrive maintenant à traiter avec la thérapie génique. On arrive globalement à corriger un petit peu maintenant l'erreur, le gène qui est malade dans ces enfants, et on arrive à retarder l'effet de la maladie. Ces enfants maintenant arrivent à 2 ans, ils arrivent à marcher, alors que clairement ils étaient condamnés par leur maladie qui est normalement très 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 grave.
D'où l'importance de la recherche et des dons, on le rappelle.
Exactement.
Parce que on nous demande de l'argent de tous les côtés, c'est très important. Donnez ce que vous pouvez, ouais. 1 franc, 2 francs, 10 francs, ça fait la différence. Téléthon.ch pour donner. Vous le disiez, une maladie qui condamne les enfants avant qu'ils aient 2 ans, donc je ne peux qu'imaginer le soulagement et l'espoir que vous avez quand vous avez un matin ce que vous appelez un résultat waouh.
Oui, alors oui, nous à l'échelle du laboratoire, c'est pas, on va pas se lever le matin et avoir un résultat qui nous dit bon bah ça y est, on va sauver les enfants. C'est vraiment un travail de longue haleine en fait, et c'est pour ça que ça coûte aussi cher la recherche, c'est que c'est vraiment des tout petits résultats qui mis bout à bout, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, où on va se dire à un moment ok, on peut avoir un essai clinique, on va pouvoir proposer ce traitement à des enfants, et peut-être que du coup dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être qu'on pourra proposer ça à tous les enfants qui ont cette maladie et l'appliquer. Après, le souci de ces maladies rares, c'est aussi qu'on va aller de plus en plus vers des médecines personnalisées, c'est-à-dire que les enfants vont avoir, ou les personnes, même les adultes, etc., vont avoir une même maladie, mais la cause de cette maladie est légèrement différente entre les patients. Et du coup, en fonction de cette petite erreur génétique, en fonction du type d'erreur qu'ils vont avoir, il va falloir aussi adapter la thérapie. Ça se voit très bien dans la dystrophie de Duchenne, où on peut proposer maintenant des essais cliniques, des thérapies, etc. Mais ça va être dépendant vraiment de la cause moléculaire de la maladie. Et donc, c'est là où on se rend compte que ça va être encore plus long, et il faudra encore beaucoup plus d'argent pour arriver à soigner tout le monde. Parce que non seulement il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies rares, mais en plus, en fonction de l'erreur moléculaire, de l'erreur génétique qui est dans chaque patient, il va falloir adapter la stratégie thérapeutique. Et en fait, du coup, vraiment, le nerf de la guerre, c'est l'argent. En fait, il faut bien comprendre que dans les laboratoires de recherche, tous les chercheurs ne sont pas en manque d'idées. En fait, on pourrait avoir 10 fois plus de personnes qui travaillent sur ces maladies, 20 fois plus, 50 fois plus de personnes. Ce qui manque, c'est l'argent au quotidien.
Alors, allez-y, terminez.
Non, ce qui veut dire que, par exemple, pour avoir un étudiant en thèse ou un postdoc qui va faire un projet sur une maladie rare, il faut de l'argent pour payer le matériel, pour payer les virus, pour payer les cellules, etc. Il faut de l'argent. C'est vraiment le nerf de la guerre.
Donc je vous pose honnêtement la question, quand on voit les personnes les plus riches de ce monde qui envoient des fusées pour aller coloniser Mars, c'est pas rageant de se dire « mais coucou, nous on est là et on en aurait besoin ».
Oui, alors parfois c'est assez frustrant. Oui, mais il faudrait. Après, bon, on n'est pas les seuls. Hein, c'est ce que vous disiez. C'est vrai qu'on demande de l'argent pour tout. Il y a d'autres causes. Il y a des soucis partout. Les temps sont durs pour tout le monde. Donc on comprend que c'est difficile. Mais c'est vrai que c'est parfois rageant que les pouvoirs publics ne mettent pas plus d'argent pour la recherche sur les maladies rares. Parce qu'elles sont rares, que les industries pharmaceutiques ne mettent pas plus d'argent dans les phases initiales de la recherche sur ces maladies rares. Objectivement, le Téléthon ne devrait pas exister. On ne devrait pas être obligé de demander de l'argent aux personnes pour soigner des maladies ou faire de la recherche. Mais la réalité est différente. On a besoin du Téléthon, on a besoin de cet argent pour faire marcher les laboratoires de recherche et faire avancer la recherche sur ces maladies rares.
Je le rappelle encore une fois, téléthon.ch, vous pouvez soit donner de l'argent, soit acheter des produits. Je pense à des stylos Carandache, oui, à des couteaux. Il y a un livre également illustré, Mia et Charles, le hibou malheureux, que vous pouvez découvrir. D'autres livres, Mia et Lily la belette. Enfin, je ne vais pas tout énumérer, vous avez tout ça sur téléthon.ch. Docteur Castet, cependant, je parlais des hommes, parce que ce ne sont d'ailleurs que des hommes les plus riches du monde, mais qui possèdent aussi souvent des entreprises de nouvelles technologies. Et on sait que les nouvelles technologies, principalement l'intelligence artificielle, qui permet d'agréger un grand nombre de données et donc potentiellement d'une certaine manière vous aider à moindre coût, peut faire aujourd'hui la différence. Est-ce qu'on l'utilise aujourd'hui dans la recherche?
Alors, je pense qu'elle va être très, très importante pour les, surtout justement les phases de diagnostic, pour accélérer toutes ces phases de diagnostic et pour mettre en commun toutes les informations dont on dispose sur vraiment l'histoire des patients, tous les signes qu'il y a avant ou après la pose du diagnostic, pour vraiment, je pense que c'est vraiment sur cette phase-là que ça va aider pour justement gérer une grande quantité de données nationales, mais aussi internationales, etc. Il faudrait vraiment créer, s'aider de ces technologies pour intégrer toutes les données qu'on a dans le monde entier, puisqu'un des problèmes des maladies rares, c'est qu'on travaille en général sur très peu de patients pour une même maladie. Donc il faudrait vraiment unir ces forces, et je pense que l'intelligence artificielle notamment pourrait aider à ça. Après, au jour le jour, au sein des laboratoires, c'est vrai qu'il nous faut des mains pour manipuler, pour tester, etc. L'humain est encore nécessaire pour cette phase-là.
Ah, mais j'espère bien. Cependant, vous disiez, il faudrait qu'on se mette ensemble, le monde entier, parce que, oui. Et vous l'avez très bien rappelé, la difficulté de travailler sur des maladies rares, c'est précisément qu'elles sont rares. Mm-hmm. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? On communique beaucoup de laboratoire en laboratoire?
Au sein même de la Suisse, on a un réseau qui fonctionne plutôt bien. Et le Téléthon contribue un peu à ça, parce que le Téléthon finance la Fondation Suisse pour la recherche sur les maladies musculaires, la FSRMM. Et grâce à cette fondation, on a une fois tous les deux ans un symposium avec tous les chercheurs qui travaillent sur ces maladies musculaires, et on partage tout, on partage les données, on fait ce qu'on appelle du brainstorming, on met tous nos cerveaux ensemble pour essayer de faire avancer certains projets plus rapidement. Après, entre les pays, ça peut se faire, c'est pas encore organisé de manière claire entre tous les pays, mais on a des réseaux. On a un réseau France, Italie, Suisse qui marche bien sur la recherche du muscle. Au niveau du monde entier, ça devient forcément un peu plus difficile, mais c'est clairement quelque chose sur lequel on doit travailler et se diriger. Ouais.
Et ce sera peut-être ma dernière question, docteur Castet, mais vous pourriez faire autre chose dans votre vie quand vous travaillez sur ces choses-là et que vous constatez à quel point ça, à la fin, ça change la donne.
Moi, je pourrais pas faire quelque chose d'autre. Je me pose beaucoup la question en ce moment parce que les carrières dans la recherche académique sont assez difficiles. Donc, ça a été une question qui est venue se poser assez récemment d'un point de vue personnel. Non, je ne pourrais pas faire autre chose. Je pense que quand on a fait ce choix, on le fait pour une bonne raison, c'est que on a des malades qui sont en attente, qui sont en général très peu considérés ou ont l'impression d'être très peu considérés par les industries pharmaceutiques, les pouvoirs publics, etc. Et je trouve que ça a une vraie valeur, en fait, de travailler sur ces maladies rares. On me pose souvent la question de pourquoi je travaille pas sur les cancers, sur Alzheimer, etc. Oui, je pourrais, mais je pense qu'il y a aussi un énorme besoin pour ces patients d'avoir une recherche qui leur est dédiée, des progrès scientifiques, des thérapies qui leur est proposées. Et même si c'est 30 patients, ces 30 patients ont le droit de l'avoir. Donc je changerai mon métier pour rien au monde.
C'est très bien dit. Et j'ajouterais d'ailleurs, pour avoir fait plusieurs émissions, puis même au-delà de ça, mais je ne vais pas raconter ma vie, des personnes qui ont des maladies rares, des maladies orphelines, une résilience extraordinaire. Et souvenez-vous que si jamais il y a quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qui prend de la place avec son fauteuil dans le bus, eh bien voilà, ça reste un être humain comme les autres. Téléthon.ch pour donner, on le rappelle, chaque franc compte, et on l'a bien compris grâce à vous, docteur Perrine Castet, professeure assistante à l'Université de Genève, spécialiste des maladies neuromusculaires. Merci beaucoup d'avoir été avec
nous. Merci beaucoup.
Avec Benjamin Smadja sur Radio Lac.
La journée finit bien.
La journée finit bien.